L'arrière-grand-père était armurier avec une boutique Pignon sur rue à Évreux. Le grand-père lui-même est devenu armurier mais s'est installé à L'Aigle, rue des Émangeards. Et ensuite, mon père, lui, s'est installé en 1983 quand il a eu l'idée d'inventer la première munition non létale au monde, c'est-à-dire qui ne tue pas. Donc c'est une munition qui a un projectile en caoutchouc qui a la force du coup de poing de Mohamed Ali, donc je vous laisse imaginer la douleur, mais ça ne tue pas. Donc ça permet de se protéger à la maison sans avoir de licence de tir ou de permis de chasse, une simple pièce d'identité, un certificat médical comme quoi on est apte au tir, nous permet d'acheter ces solutions, donc une arme et des munitions pour se défendre à la maison. Donc quand il a créé la GOMCON, donc cette fameuse munition non létale et les armes qui vont avec, il a créé l'entreprise SAPL pour pouvoir fabriquer et commercialiser son invention. Voilà. Et à côté de ça, ils ont continué à fabriquer ici les autres produits de la gamme du grand-père, donc des silencieux qu'on appelle modérateurs de son, des plaques anti-recul pour absorber le choc du tir, donc le recul quand on tire, voilà, et puis tout un tas d'accessoires liés au tir, à la chasse et compagnie.
On a du mal à imaginer qu'une telle entreprise sur un marché aussi pointu puisse être installé au milieu de notre campagne.
Oui, il faut juste pouvoir se trouver quelque part. Et là, en l'occurrence, c'est le berceau familial qui est à Gauville. Et donc, quand mon père, une jeune vingtaine d'années, veut s'installer, à 200 mètres de sa maison, il y a cette vieille grange qui aujourd'hui est à la SAPL, donc qui s'écroule. Et il s'agit de la reconstruire, de s'endetter, la maison sous hypothèque, enfin tout ce qu'on peut imaginer pour construire ce qu'on connaît comme la SAPL aujourd'hui.
Alors, quand on est une jeune femme comme vous. Oui. Alors moi, j'imaginais ça au milieu des hommes, au milieu de machos.
Oui.
Voilà.
Oui.
Est-ce que vous dénotez ou est-ce que...
Oui, clairement, je sors des cases parce que c'est un milieu d'hommes, on va dire, mûrs, pour ne pas dire âgés. Et moi, c'est vrai que quand j'ai repris, j'avais 27 ans, donc effectivement, jeune femme. Oui, ça dénote. Hein. Au début, on me demandait de servir les cafés où était le vestiaire en pensant que je travaillais en tant que telle. Sauf que non, j'ai expliqué que j'étais là pour les mêmes raisons que ces messieurs. Voilà. Après, j'ai pas eu à me battre, honnêtement, plus que d'autres, si ce n'est que dans le fait de reprendre mon entreprise et de voir la pérenniser. Donc ça, oui, ça a été un combat, mais le même que les hommes, finalement. Il n'y a pas de différence. Et moi, j'ai été élevée, j'ai grandi d'une façon où on ne m'a pas appris que parce que je serais une fille, ce serait plus dur. Voilà, j'ai été dans le monde des hommes très tôt, puisque à 15 ans, j'ai commencé à piloter à l'aéroclub de L'Aigle. Voilà, donc c'était un entraînement au monde des hommes plus âgés. Donc là, c'était un peu la continuité de ça.
À quel moment, en fait, vos premiers pas dans l'entreprise, enfin, je sais pas, je pense à des stages quand on est en troisième, des choses comme ça. Mais...
Non, c'était pas du tout inévident. J'ai toujours refusé d'y rentrer. Non, j'ai fait un stage, effectivement, quand j'étais au lycée, j'ai fait un stage d'une ou deux semaines ici, et après j'ai beaucoup travaillé avec mon père sur les salons, puisqu'il y a des salons comme dans toute profession, des salons professionnels, donc comme je parlais anglais, je faisais les traductions, j'accueillais les délégations, et petit à petit j'ai commencé à présenter les produits, finalement à les connaître. Pour autant, quand mon père à 19 ans m'a dit « veux-tu reprendre l'entreprise ?», j'ai dit non pendant de nombreuses années, et puis vers 25-26 ans, j'ai fini par dire oui.
Votre rêve, c'était de faire quoi sinon ?
Pilote de chasse. Je voulais être pilote de chasse, voilà, j'ai passé les sélections, ils en prenaient 5, on était 30 et des bananes, j'ai fini 7e. Voilà, raté. comme quoi, des fois, hein, c'est pour moi, le souci, c'est qu'il n'y avait pas de plan B, quoi. Je ne pouvais pas être autre chose que pilote de chasse, donc là, il a fallu se remettre en question, dire qu'est-ce que je fais de ma vie. Donc, je suis partie à l'étranger pour continuer à apprendre l'anglais. J'avais commencé juste après le lycée, je suis partie en Afrique du Sud pour apprendre l'anglais, pour me préparer à mes sélections de pilote de chasse. Donc, je parlais anglais, mais je n'ai pas eu les sélections. Donc, je suis partie à New York, pareil, pendant un an et demi, pour continuer à apprendre. Et là-bas, j'ai continué en faisant une école de commerce. Voilà.
Alors expliquez-nous où vous arrivez. Papa est encore là ou pas ?
Non, du tout. On n'a jamais travaillé ensemble. Je ne sais pas si on aurait pu travailler ensemble. Deux caractères très forts, donc non, je ne pense pas qu'on aurait pu. Entre lui et moi, il y a eu un prédécesseur qui est resté pendant une dizaine d'années. Et très vite, il n'est pas resté très longtemps. Donc finalement, quand il est parti, quand j'ai pris la présidence, j'étais à 2 semaines de la naissance de mon 3e enfant. Donc, avec mon gros ventre, j'ai commencé à assister aux réunions avec une casquette différente en plein congé mater. Mais c'est pas grave. Et finalement, j'ai tout appris sur le tas, en fait. Voilà, c'est une entreprise qui a été en difficulté pendant longtemps. Enfin, au moment de la reprise. Quand je l'ai reprise, elle n'était pas en très bonne santé. Donc ça a été un très long combat. Dans les difficultés, c'est là qu'on apprend le plus. D'abord, sa propre force, parce que les épreuves, il faut les porter pendant très longtemps, et surtout quand on a une jeune famille à côté. Voilà, c'est pas simple, parce qu'on porte les problèmes perso et les problèmes pro, mais c'est aussi extrêmement formateur. Donc aujourd'hui, je ne regrette rien. Ça a été 5 premières années extrêmement difficiles, mais qui ont permis de faire la dirigeante que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a une entreprise qui va bien, qui va de mieux en mieux, qui se développe, voilà, qui fait de la R&D. On a embauché 7 personnes en moins d'un an.
J'allais dire, au moment des difficultés, il y a sans doute votre famille, mais aussi les gens derrière la porte à l'atelier qui comptaient forcément beaucoup sur vous. Ils sont combien ? Vous nous parlez un petit peu, parce que la boîte, elle tourne grâce à eux, j'imagine.
Bien sûr. Alors, pendant très longtemps, on a été entre 9 et 10 personnes. Là, on a embauché donc 7 personnes en moins d'un an. On est à parité parfaite. Hommes et femmes. C'est pas fait exprès, parce que moi, quand je regarde le CV, je regarde ni l'âge ni le sexe de la personne. C'est vraiment à la compétence ou à l'envie. Donc, dans ces 7 personnes, j'ai embauché une personne qui avait 18 ans et une autre qui en avait 56. Une femme pour faire le boulot qui a été pendant 30 ans fait par un homme, qui était attendu au tournant, mais qui a montré à tout le monde
c'est
que...
C'est quoi ces métiers ? Parce que c'est très spécifique.
Alors, oui, le fameux jeune, lui, il est tourneur-fraiseur. Donc, sauf qu'en sortant du lycée, il a appris numérique. Sauf qu'ici, on est en train de renouveler le parc machine, mais pour l'instant, on n'a que du conventionnel. Donc, il a appris, il s'est formé à ça. La personne, donc ça, c'est Romuald. Ensuite, on a Jackie, qui a 56 ans, qui, lui, a appris, avec les autres collaborateurs, à fabriquer des boucliers. Donc ça, c'est pareil, il n'y a pas d'école de fabrique de boucliers. Donc ça s'apprend en formation interne. Sandrine, qui remplace Benoît, notre cartouchier historique, puisque c'est le plus ancien de la boîte. Il est arrivé en 86. Dans 3 ans, il est à la retraite. Donc elle vient pour apprendre le métier de fabrication de cartouches. Donc il y a une grosse partie, vous l'aurez compris, qui est vraiment en formation interne. Voilà.
Quand vous avez repris l'entreprise, vous avez expliqué que ça n'était pas forcément très brillant d'un point de vue économique. Votre volonté, c'était quoi ? C'était de renouveler des gammes ? C'était d'apporter un vent de fraîcheur, quelque part ?
Oh, c'était tous les domaines. Honnêtement, c'est mon souci, c'est que je ne sais pas choisir. Donc, je me suis attaquée à tout. D'abord, il a fallu changer le modèle de production, qui a très bien marché pendant longtemps, mais qui aujourd'hui était dépassé par rapport aux réalités du marché. Donc, il a fallu changer notre façon de produire, notre organisation interne, faire des investissements du simple petit tournevis autour numérique en passant par la servante. Donc ça, il fallait y penser et réorganiser. Il y avait bien sûr la relance du commerce, parce que donc le commerce France fonctionne plutôt bien, mais il y a l'export, donc auquel moi je m'attaque, puisqu'en plus c'est ma formation de base, hein, commerce international, et j'ai la chance de parler plusieurs langues, donc c'est chouette, ça tombe sur moi, ça me va très bien. Et donc la R&D, bien sûr, et aussi des nouveaux, ce qu'on appelle domaines d'activité stratégique, donc de nouvelles sources de chiffre d'affaires, parce que notre problème, c'est que pendant longtemps, on a été dépendant de quelques sources de chiffre d'affaires, sauf que si elles s'arrêtent, comme ça a pu être le cas pendant la crise, eh ben, il faut bien qu'il y ait un relais quelque part. Donc mon travail, c'est aussi de développer ces relais. Voilà, ce qui est le cas avec un site internet et l'atelier d'armurerie Bernard Lefebvre.
Clairement, vous avez beaucoup travaillé pour l'État. Maintenant, il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent. C'est notamment le domaine de la chasse que vous voulez développer.
Alors, ça ne s'ouvre pas tout à fait parce qu'on a toujours eu cette double casquette de fournisseur des États, mais aussi de par notre passé d'armurier, on n'a jamais arrêté de faire les produits de l'armurerie, c'est-à-dire le modérateur de son, ce qu'on appelle un silencieux dans les films, les plaques anti-recul, certaines armes. Et effectivement, aujourd'hui, on est en train de développer plus cette gamme-là qui est pour les particuliers que la partie étatique.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les armes que vous construisez, que vous produisez ici pour la chasse, sont différentes de tout ce que l'on peut trouver ailleurs.
Voilà, la nouvelle arme qu'on vient de sortir déjà s'appelle l'adamantium. Elle a un super nom. Pour ceux qui connaissent, c'est le nom du métal qui recouvre les os de Wolverine dans les Marvel, dans X-Men. Voilà. Donc c'est un nom qu'on a pu breveter et qui aujourd'hui appartient à SAPL. Donc des États-Unis, ça appartient maintenant à la France, Cocorico. Et c'est une carabine donc, qui est développée en Normandie. Donc nous, on est très Cocorico, comme je le disais. 100% français en termes d'approvisionnement et de fabrication, et 80% de mes fournisseurs sont normands. Donc le développement de cette carabine s'est fait en Normandie avec un autre fournisseur normand qui est à Argentan, et donc elle est faite en carbone, ce qui permet déjà un allègement conséquent conséquent du poids, puisqu'il y a 1 kg en moins sur une carabine de 22 long rifle. Ça permet une meilleure conduction des échanges, donc on est passé de 50 à 100 mètres de précision. Et aussi, elle est hautement personnalisable, comme une voiture. On peut choisir la couleur du canon, du ball driver ou du bouchon obturateur.
Quand vous dites qu'on va faire un nouveau produit, vous mettez l'équipe, enfin je ne sais pas qui fait le R&D, mais autour de la table, on parle d'une feuille blanche, on se dit on nous a fait telle remarque, il faut qu'on en tienne compte. Comment ça se passe?
Alors déjà, il y a un petit peu les envies de chacun, parce que moi je pars du principe qu'il faut vraiment s'amuser dans ce qu'on fait, travailler sérieusement mais sans se prendre au sérieux. Donc la carabine en carbone, c'est moi qui l'ai voulu absolument et mon armurier n'était absolument pas d'accord. Aujourd'hui, il est d'accord, c'est un super produit. Maintenant, il y a les envies de chacun et l'avantage avec donc, mon armurier Gauthier, qui vient d'arriver aussi, c'est que lui, il est champion de France de tir à la carabine. C'est un passionné. En dehors du fait qu'il en ait fait son métier, c'est aussi une passion en dehors du travail. Et donc, il sait exactement ce qu'il y a sur le marché, les manquements, ce qui pourrait être développé, ce qui n'existe pas du tout. Et donc, on réfléchit plutôt par gamme. Si on commence à avoir l'idée d'un silencieux, on dit, OK, dans ce cas, il faut qu'on crée une gamme parce qu'il y a plusieurs calibres, parce qu'il y a plusieurs désirs de la part des clients, etc. On essaie d'avoir une cohérence. Voilà. Donc, on lance les idées de départ et ensuite, on en vient à développer une gamme.
On revient à cette nouvelle carabine dont on a commencé
la
à parler
un petit peu.
Bon, ok, on a l'idée, on la fabrique.
Ouais.
On la fabrique, vous avez dit, avec une autre entreprise de l'Orne. Et c'est vraiment
ça.
Une particularité parce qu'on
oui.
pourrait s'attendre à tout sauf à ça.
C'est ça.
On arrive à un produit fini, on le teste. Après, ça se passe comment? Enfin, entre l'idée et puis la commercialisation.
La Damantium, elle est vraiment particulière parce qu'on a été très vite. Je sais pas, on a tellement aimé l'idée que c'est parti dans tous les sens, non, de façon construite. C'est-à-dire qu'en septembre, on a eu l'idée. On a commencé à faire les prototypes. En décembre, elle était terminée. On l'a fait breveter, tellement elle est unique. En janvier, on a lancé toute une campagne marketing, de communication pour pouvoir la présenter au public. Et là, ça y est, donc on a les pièces de série, donc on peut la vendre autant qu'on a de commandes.
Quand on a un nouveau produit comme ça, c'est quoi? C'est les salons, c'est Internet, c'est comment ça,
voilà.
Un produit grand public, hein, j'entends.
Oui, c'est ça. Bah, ça va être effectivement les salons, ça va être sur Internet. Là, on va lancer dans quelques mois, je l'espère si tout va bien, une boutique en ligne qui nous permettra de vendre directement aux particuliers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On vend surtout aux armuriers et donc aux revendeurs divers. Mais là, ça y est, on ouvre la vente aux particuliers. Donc, ils peuvent nous contacter pour passer leur commande et bientôt, on espère, ils pourront le faire via le site internet qui s'appellera gomcoin.com.
Et puis donc, vous allez aussi réparer les armes qu'ont déjà tous ces gens-là.
Voilà.
C'est une nouveauté, c'est une nouvelle orientation.
Alors ça, c'est une nouveauté dont je suis extrêmement fière puisqu'on vient donc avec l'arrivée de Gauthier de réintégrer un savoir-faire historique dans l'entreprise puisqu'il est armurier. Donc on a créé l'atelier Bernard Lefebvre du nom de mon arrière-grand-père et aujourd'hui on offre les services d'entretien, réparation, rénovation des armes, mais aussi création unique et sur mesure, ou comme j'aime les appeler création remarquable sur mesure. C'est-à-dire que vous allez avoir un particulier qui a envie de créer une arme qui n'existe pas avec un bois spécifique, avec des gravures, avec tel calibre, etc. On est capable de le faire puisque Gauthier est le dernier élève du dernier grand maître de l'armurerie française qui a près de 90 ans aujourd'hui. Donc il a hérité de ce savoir de réparer de l'arme très ancienne, mais aussi de créer de l'arme de collection. Et depuis son arrivée, c'est vrai qu'on voit passer des armes du siècle dernier dans l'atelier. Enfin, c'est un vrai banc d'histoire régulièrement. Quand on va le voir, on dit bah alors qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est très beau et qui, je pense, fait honneur à mon arrière-grand-père qui s'est installé en 1924 et qui a donc était finalement le premier Lefebvre à faire de l'armurerie. Donc aujourd'hui, Gauthier arrive avec son savoir-faire, il apprend de notre savoir-faire et ça donne des choses comme la Damantium.
Des projets déjà dans la tête au moins.
Beaucoup déjà. Le plus dur, c'est de finir ce qu'on a commencé, ouais. Parce qu'effectivement, on a tellement d'idées, on est des vraies cocottes minutes. Quand j'ai embauché Gauthier, je disais que je voulais trouver quelqu'un qui soit aussi fou que moi et qui soit géotrouve-tout comme mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père. Donc pour ça, on a été le chercher en Alsace. Voilà. Donc oui, effectivement, on a plein de projets, de nouveaux modérateurs de son, de nouveaux accessoires pour le tir, de nouvelles armes dans plein de calibres différents. Voilà, donc je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Donc on va terminer le site internet, l'atelier d'armurerie Bernard Lefebvre, les adamantium dans toutes leurs déclinaisons et ensuite vont venir après les autres produits. Mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés à attendre de nous dans ces prochains mois et ces prochaines années.
Podcast by Tendance Ouest.